Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 203. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Wouh! Ben, elle est... 203, c'est le premier épisode qui n'est pas le spécial 4 de l'année 2020.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Que, c'est bien, ça.
Et les gars, si vous saviez comment je suis fatigué,
parce que quoi?
C'est le lendemain de la quatrième édition de Plein Écran qui vient de s'achever.
D'ailleurs, là, ben, là on enregistre le dimanche soir, là, il sera pas en ligne le 26, puis là, c'est la reprise des films gagnants. Puis il y en a quelques-uns, là, en fait, j'avais pas vu le film français, finalement, qui a remporté. Ben, en fait, fais-nous un line-up des lauréats, là, puis après ça, on pourra en parler un peu.
Donc, Prix du public France, c'est Hors de l'eau, une animation de l'école Gobelin, qui est comme une des meilleures écoles d'animation au monde. Là. Fait que c'est toujours ça, cool d'avoir des films d'eux. Là. Ouais. C'est comme un film avec des singes en première personne. Là. Fait que c'est quand même super impressionnant comme technique.
Ah, ouais.
Puis il y a comme du mélange d'animation puis de prise de vue réelle pour comme le décor. Fait que c'est comme c'est un parti très intéressant, vraiment. Puis ça vaut la peine. Prix donc du jury français, c'est Eve. Mm-hmm. Qui est un espèce de film, là, genre portrait de deux femmes particulières avec une narration un peu poétique et dont la voix est celle de comme une voix comme Siri, là, une voix informatique.
Ah, OK.
Prix du public québécois, Un homme éternue et meurt.
Fuck yeah! C'est hey, tellement badass, là!
Oh God! Mais c'est vraiment la parfaite plateforme pour ce film-là, là, Plein Écran, pour vrai, là. Moi, je l'ai regardé justement le matin, là, comme avant de m'en aller, comme avec ma journée de mixage, là, pour notre film. On est en train de finir ça, d'ailleurs, pour ceux qui suivraient l'épopée. Mais bref, puis c'est ça, je l'ai comme regardé, là, littéralement, là, avec, tu sais, le café le matin, là. Tu sais, un peu comme, tu sais, le brand de cette année, Plein Écran, il est un peu autour de ça, là, genre, checker un film, comme, avec votre café, checker un film dans votre pause, blablabla. Puis, moi, j'ai fait vraiment ça, puis c'était... pile poil adapté à mon mood du moment. Là. J'ai comme bien commencé ma journée. Là.
Ouais, c'est
Guillaume
triste.
Le Métivier. C'est le choix de casting qui fait le film, pour vrai.
C'est très web. Ça se partage bien, là, mettons. Là. Avec un vote du public où il faut que tu partages le film, c'est comme le meilleur film à partager. On l'a eu à Fantasia, là, c'était à DJXL5, puis Guillaume le Métivier s'est pointé pour présenter le film. Mais tu sais, c'est comme un film d'une minute et demie, puis t'as Guillaume le Métivier qui se pointe à la projection. C'est quand même bon, épique, là. Ouais.
Ben oui, puis cette année, à Plein Écran, on enregistrait une série de balados un peu sur des entretiens avec les équipes des films. Il y en a 19 épisodes. Puis il y en a un qui c'est justement sur ce film-là avec le producteur et les réalisateurs. Puis tu sais, c'est comme une balado de 22 minutes sur la réalisation de ce film-là. Fait que c'est quand même cool. Mais on apprend plein de choses, notamment que Guillaume Lemaitre-Vierge, tu sais, il voulait lui-même faire sa cascade, qu'il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse. Okay, et pour le fameux éternuement, il a vraiment voulu comme se la jouer un peu method actor, puis genre renifler du poivre et non faker un éternuement. Donc, c'est un vrai éternuement. Et ça c'était long, en fait, avant qu'il éternue, parce que, tu sais, quand tu respires du poivre, c'est pas instantané. Là. Ça peut prendre vraiment du temps. Fait qu'ils ont vraiment des... Tu sais, ils ont des rushs de, mettons, 20 minutes que ça tourne puis qu'ils attendent que, genre, il se passe quelque chose. Puis...
Oh my God!
C'est vraiment notre c'est notre Daniel Day-Lewis du Québec, mais genre, qui fait des backflips, là.
Ouais. Tout à fait. Puis des films qui remportent des prix du public. Donc ça, c'est une belle trouvaille. Ensuite, le prix coup de cœur du jury, c'est Parlons Ergonomie, de Rachel Sanson. Puis ça, c'est très, très cool. Tout petit film d'animation de une minute, encore une fois.
Ben, c'est tout simple, ouais, c'est ça.
Qui fit vraiment bien avec notre festival, là, qui est à propos, justement, un peu de la nos postures avec les nouveaux appareils numériques, là, des iPads, des iPhones et compagnie. Là. Donc, ça fitait comme super bien avec le festival, puis le jury a accroché. Elle s'attendait pas à ça du tout, je pense. Là. C'était vraiment émouvant, en fait, pendant la remise de prix, de l'avoir accepté son prix. Mm-hmm. Et ensuite, le prix du jury étudiant, le prix des pairs, ainsi que le grand prix Plein Écran ont été tous les trois remis à Brotherhood de Meriem Joubert. C'est pas étonnant dans un sens. C'est sûr que comme mon cœur de programmateur aimerait ça que ça soit un petit peu plus partagé les prix. Mais écoute, je l'ai encore écouté aujourd'hui avec une partie de ma belle famille. Puis tu sais, c'est un film qui est vraiment bon, là, qui est vraiment comme parfait. Puis genre, tu sais, Meriem Joubert, elle travaille déjà sur un long métrage. Puis il y a aucun doute que ça va bien marcher, son long métrage. Puis tu sais, elle brûle la ligue. Tu sais, comme être dans une compétition contre Brotherhood, c'est un peu genre, ok, c'est correct. Là, on sait qu'il va l'avoir. Là,
Ben oui, ben, puis en plus, en fait, je vais prendre la balle au bon, tu sais, là, il y a le fameux prix Prends Secours, là, qui est de retour après l'année d'absence, là, l'année dernière. Là. Ouais. Puis c'est ça, 63 films, là, nous, ben là, on peut peut-être le dire, j'imagine, tu sais, on va faire un peu un podcast un peu spécial autour là, de tout cela. Je pense que peut-être que je viens de brûler un peu le scoop, mais c'est pas tant un scoop. Anyway, puis entre plein écran, puis là, nous, un peu pour, comme préparation, on a un petit peu accès au film. Puis j'en ai regardé comme plusieurs que j'avais justement pas encore vu. Puis honnêtement, je veux dire, autant Brotherhood est un film excellent, puis là en plus on va parler des Oscars, parce que depuis le dernier podcast, ben, il y a ça aussi qui est sorti, hein, je veux dire, tout le monde le sait, là, on vous apprend rien, mais je veux dire, Brotherhood est nommé court-métrage aux Oscars. Là. Et... Mais j'ai vraiment été surpris là, à date, là, ben surpris oui ou non, mais de la qualité des courts-métrages dans la sélection. Ben, t'sais, oui, à plein écran, mais en plus comme couplé à t'sais, les liens un peu privés des films que je voulais vraiment voir de cinéastes que t'sais, que je suis, puis que j'avais pas encore eu la chance d'avoir les films. Vraiment, là, il y a énormément de qualité. Moi, au passage, là, j'ai adoré Jarvik là, de Emily Manring, notamment, là, puis je veux dire, puis il y en aurait d'autres à parler. Mais ouais, non, vraiment, là, c'était comme coup sur coup, film après film, j'étais comme My God, il y a donc bien du bon court-métrage qui se fait au Québec. Puis c'est comme c'est pas un nouveau constat. C'est comme mais particulièrement, je trouvais là, cette année. Là, comme je disais, là, en ce moment, on dirait que j'overdosais de bons courts-métrages. C'était vraiment. Donc oui, du positivisme à point de vue ce matin, ce soir, les amis.
Ben oui,
mais
tout à fait.
Vraiment, là, du très bon stock, varié, éclectique.
J'ai aussi l'impression qu'il y a comme une compétition saine qui se fait en ce moment au Québec, dans le sens qu'il y a tellement des bons courts-métrages qu'on dirait que tout le monde n'a pas le choix un peu de, tu sais, élever le niveau un peu, puis de se dire, là, mon prochain, là, il va être bon, là, tu sais.
Exact, donc... exact. Mais oui, puis je suis passé un peu sur ma tirade, parce que, tu sais, autant j'adore Brotherhood, je pense qu'il y a tous les mérites, puis les éloges lui collent bien, parce que c'est mérité, mais mon point, c'est qu'il y en a tellement d'autres de bons, que j'espère, d'une certaine façon, quand même, qu'il y a d'autres films comme ça qui vont attraper des prix à droite à gauche, tu sais, ce serait un petit peu... Autant je lui souhaite le bon, là, je suis pas en train de dire le contraire, mais comme je serais un petit peu déçu si c'était comme juste Brotherhood qui raflait là, toute la mise là, pour les prix Prends Secours. Là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'autres.
Mais il est pas dans la. Il est-tu dans la liste de Prends Secours?
Ben, c'était pas. Ouais, ah, on m'a
il est-tu là?
Ben non, c'est moi, dans ma tête, c'était comme l'année passée. Là,
parce ben, l'année passée, il n'y en a pas eu, mais en 2018, il me semble qu'il était déjà là.
Ben, tu sais, Brotherhood était au prix du cinéma québécois, là. L'année passée, fait que je me dis que probablement ça devait être couplé avec ça, sa run de festival. Là. Mais en même temps, est-ce que Danny a combiné deux ans ensemble pour faire une programmation? En tout cas,
dans quelques minutes, on va avoir la réponse à ça. Là.
J'ai pas la liste sous les yeux.
On va la trouver, la Christie de réponse. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on va la trouver, la liste sous les yeux. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a plein d'autres films qui ont du mérite. Je veux dire, comme je disais, je voulais juste prendre la balle au bon de dire oui, Brotherhood, c'est excellent, ça mérite des éloges, mais Chris, il y a du bon show qu'il faut au Québec, puis amen. Voilà.
Tout à fait.
C'est sûr.
Voilà. Autre grosse nouvelle, en fait, pour les ciné les plus aguerris et les mauvaises langues qui diront qu'ils n'ont pas besoin d'abonnement à Netflix, puisque Netflix, c'est la mal incarnée. Il y a une entente entre Netflix et Criterion, ce qui fait que certains films originaux de Netflix auront droit à leur sortie physique sur Blu-ray Criterion.
Oh, thank God!
Les films dont on a déjà la confirmation qu'il y a une sortie qui s'en vienne, il y a Roma, The Other Side of the Wind, The Irishman, Marriage Story, American Factory et Atlantics. Atlantique, en fait, de Régis de Marie Diop. Ouais. Donc, 6 films vraiment parmi les plus gros du line-up de Netflix. Et ça, c'est cool aussi, juste pour une question de postérité, puis aussi pour, tu sais, dans toutes sortes de contextes, c'est bien d'avoir des films aussi sur un support physique, là, tu sais. Notamment pour les bibliothèques, notamment pour l'enseignement, tout ça. Puis en plus, ils vont sûrement produire plein de suppléments originaux, puis d'entrevues pour ces sorties-là. Donc, ce sera une occasion d'en apprendre plus sur ces films. Tu sais, notamment The Irishman, là, j'ai tellement hâte de voir comme un long documentaire là-dessus. Là, parce que je pense que c'est plus ça qui m'intéresse, de lire sur le film, que peut-être même le film en soi. Un peu comme le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, là, comme tout le behind the scenes, je trouve ça super intéressant. Mais le film me laissait un peu perplexe. Là, donc, donc voilà. Alors ça, c'est une très cool nouvelle.
Hey, je veux juste dire, Brotherhood n'est effectivement pas dans la liste pour les 16e prix. Prends
ça. Ah, tout ça pour ça!
Mais il y a Physique de la tristesse de Théodore Bouchev. On parlait de brûler la ligue, là, je pense que ça, c'en est un qui l'incendie, la Christie de Ligue. Là. Fait que, en tout cas, je dis ça comme ça. Voilà.
Mais Prince Encore, quand même, ils remettent des dizaines de prix. Donc, souvent, c'est une façon de. Il y a beaucoup de films qui repartent avec des prix.
Ouais, absolument.
D'ailleurs, dans les prochaines semaines, juste un peu donner des dates, des trucs aussi qu'on va assister, nous. Donc, du 26 février au 7 mars, les rendez-vous Québec Cinéma.
Ben oui.
On va y être. Et d'ailleurs, c'est donc dans le cadre des rendez-vous que le Gala Prince Encore a lieu le 3 mars à la Cinémathèque québécoise.
Yep.
Quelques jours plus tard, à peine, on s'en va au Saguenay pour Regard, du 11 au 15 mars. Je sais que toi puis moi, Rémi, on y va.
Eh oui.
Puis toi, Pascal, je sais pas si tu y vas cette année.
Moi, je me tâte, là. Je sais pas encore. Ce serait la première année que j'irais comme pas avec une raison, vraiment. Autre que c'est fucking cool d'aller à Regard. Fait que je verrai où j'en suis dans ma vie. Je me permets d'être girouette un peu, là, puis de me laisser désirer peut-être, puis peut-être que je vais venir. On verra.
Parfait. Vous
saurez, quand vous me verrez.
Et à peine deux semaines plus tard, c'est Cours d'un soir, 5e édition. 1er au 4 ouais. avril. Donc, quand même, hein, ça, genre, j'ai l'impression qu'on vient à peine de finir le blitz des films de l'automne. Puis là, déjà, on a comme un hiver / printemps occupé. Mm-hmm. Pour les cinéphiles, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de façons de célébrer le cinéma d'ici, d'ailleurs. Donc, c'est super. Ouais. Maintenant, c'est aussi les Oscars qui sont sortis entre-temps, comme on disait un peu tantôt.
Ben, c'est
et
ça.
Je sais pas c'est à quel point, parce que là, ça fait quand même un bout, puis tout le monde est peut-être un petit peu tanné d'entendre parler des nominations, tout ça, mais on peut quand même en parler rapidement. Qu'est-ce que tu voulais aborder, Pascal, en particulier?
Bon, ben c'est ça. Là, en fait, des nommés meilleurs films.
Ouais.
Alors, moi, j'en ai un peu profité. Ben, c'est tout le temps un peu comme ça. Là. Tu sais, j'essaye, avant le show de télé, j'essaie d'avoir vu le plus possible. Tu sais. Mm-hmm. Et je me suis claqué Ford contre Ferrari. Je vais en parler. Je veux quand même faire une petite liste. Tiens, je vais vous faire mes best pictures du moins préféré au préféré. Puis, ça peut être l'occasion de débattre un petit peu avec mon ami Rémi.
Hein?
Mon moins préféré, c'est Jojo Rabbit de Taika Waititi.
Ah! Waititi. OK.
Ouais. On n'a pas full parlé. Ben, je pense que toi, t'en as parlé au moment où Paul et moi ne l'avions pas encore vu. Si je ne m'abuse, t'en avais un peu parlé là, dans la foulée du FNC, non?
J'ai vu, ouais, ben ça se peut bien. Puis j'ai vu le commentaire de Paul sur le poster qui était comme pour un film aussi exécrable ou je sais pas quoi là. C'est comme hey, non, oh, ça on l'a vu pas dans un débat Facebook là. Oh, puis anyway, qu'est-ce qu'il y a à débattre là en tout cas?
Non, c'est correct, fair enough. Mais moi Jojo Rabbit, c'est Creed List, désolé.
C'est bottom of the list, mais t'as haï ça ou t'as juste comme.
Non, j'ai pas haï ça, mais je trouve qu'il y a. Je pourrais essayer de résumer. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans Jojo Rabbit? Puis c'est un peu toi, Paul, là, fait que je te tire ta propre citation, mais je me demandais vraiment à qui ça s'adressait, ce film-là. En voulant dire, c'est comme pas assez irrévérencieux, trash, comme pour être complètement pour ce public-là. Puis en même temps, parce que ça essaie d'être un peu comme upbeat, un peu lumineux, un peu comme inspirant, un peu, tu sais, puis je trouvais pas non plus que ça fonctionnait nécessairement sur ce côté-là, tu sais. Les gens le comparaient à La vie est belle, puis j'étais comme, je le voyais pas tant que ça, cette comparaison-là.
Fait que... Ouais, la vie est belle, c'est pas mal plus sobre, là, c'était comme, c'est cartoony, là, par bout,
non,
là.
Non, c'est ça.
Hitler, c'est un personnage de cartoon, puis c'est un Bugs Bunny qui saute bien haut, puis qui est comme, je sais pas, c'est tellement exagéré. Mais moi, il est même pas dans mon top 10, hein, Jojo Rabbit. Il a décollé de mon top 10, mais...
Ouais.
Je sais pas, c'était comme un... C'était un bon moment, là. Je pense que c'est un peu trop comme plein d'autres affaires, mais en étant moins bon que plein d'autres affaires.
Mais c'est audacieux quand même. T'sais, ça gagne des points sur l'audace. Quand tu regardes les nommés, mettons, je les ai sous les yeux, là, les films nommés Best Picture, ils détonnent.
Et
Parasite pour la raison évidente. Là, c'est comme le seul film non-américain du lot, ben, non-langue anglaise du lot. Puis Jojo Rabbit aussi, t'sais, vraiment, c'est comme le... C'est quasiment comme rendu là, c'est comme si le prix à TIFF un peu te garantissait une nomination Best Picture. Puis j'ai l'impression que le hype a un petit peu dégonflé, mais il est quand même encore là. Mais tu sais, d'être nommé, c'est clairement. Il gagnera pas. Là, moi, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il va gagner. Puis c'est ça.
Gagner à TIFF aussi, je trouve que c'est quand même particulier pour ce film-là. Parce que j'ai pas l'impression que c'est un film à prix. Puis Taika Waititi fait pas vraiment des films à prix, là, entre guillemets. Là. T'sais, habituellement, c'est plus des crowd pleasers, un peu. C'est ça, comme tu dis, un peu irrévérencieux. Puis on. Je sais pas, là, il mélange des genres, mais j'ai pas l'impression que c'est un cinéaste qui a vraiment sa place aux Oscars. Là. Ouais, pour moi, c'était un beau trip, mais je suis quand même d'accord que le voir dans les Best Pictures, je me suis posé un peu des questions. Là. Mais j'aimais mieux ça que Once Upon a Time in Hollywood, par exemple.
Ah ouais, ouais, bah, ouais. Moi, pas tout à fait, vois-tu. Fait que ça, moi, j'ai, parce que j'ai pas vu 1917. Fait que je fais un top 8 au lieu d'un top 9 parce que celle-là, je l'ai pas encore vu. Je vais le voir éventuellement. Fait que je suis au Rabbit Curl List. Après ça, Ford contre Ferrari, ça serait peut-être mon numéro 7.
OK.
Numéro 6, Once Upon a Time in Hollywood, peut-être. Numéro 5, je pense Irishman.
Mm-hmm.
Mais je débat entre Little Women, numéro 4. En tout cas, c'est l'un peut être l'autre comme l'autre peut être un, tout, même si c'est des films incroyablement différents. Mon numéro 3 serait Joker, quand même. Moi, je suis clairement du podcast le plus enthousiaste. D'ailleurs, dans tous les top 10 qui ont été postés de notre équipe de point de vue, je semble être le seul à avoir mis Joker dans ma liste personnelle. Fait que je m'assume.
Mais attends, juste revenir sur ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que Irishman, c'est genre une histoire avec des vieux bonhommes. Puis Little Woman, c'est genre les films aux deux antipodes. Là, c'est vraiment, tu vas aux extrêmes opposés, puis c'est ça.
mais j'ai quand même beaucoup aimé, on en a pas parlé au podcast. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, en fait, Little Women, pour être bien honnête. Mais en tout cas, je pourrais étayer évidemment mon argumentaire, là, mais je vais quand même continuer mon petit rant. Puis après ça, je vais revenir sur Ford contre Ferrari. Fait que Little Women, numéro 4. Numéro 3, j'irais Joker, je l'ai dit. Numéro 2, Marriage Story. Puis numéro 1, Parasite pour moi. Mais le top 2, vraiment, quand même, tu sais, quand même deux Chris de bons films, à mon œil, à tout le moins. Fait que voilà, moi, je serais là pour défendre. Je pense que Marriage Story gagnera pas. Je pense qu'il n'y a aucun précurseur
non, de
gala qui l'amène là. Je pense que d'être nommé, c'est déjà très bon. Parasite, on dirait que j'y crois, man. On dirait que j'y crois. on verra, mais c'est une course. On peut quand même le dire, c'est quand même une année où la course est imprévisible.
Ben,
on
sait
pas. Ouais.
Right? Ça pourrait être. On le sait pas.
Mais moi, j'ai le feeling que 1917. Mais je l'ai même pas encore vu, là, mais on dirait que ce que je peux lire en ligne tend un peu vers ça. Là.
Ah ouais, puis, plus que Hollywood. Toi, Paul.
Moi, je trouve juste que c'est tellement pépère, les Oscars. Puis genre, en particulier cette année, là, ça n'a pas
année,
de bon sens.
Chaque année,
écoutez-moi,
Paul sort.
Je suis pas angry, mais genre, check le bassin de films qu'on vient de nommer, là, tous des films de vieux cinéastes blancs, là, poussiéreux, là, tu sais.
Oh, ouais.
Puis genre, ben, presque tous, évidemment, Little Women, c'est une belle surprise, Parasite,
Calmos,
c'est cool,
Parasite,
puis,
Calmos, ouais. Little Women. Ouais. Ouais. Ouais.
Mais, tu sais, comme, le meilleur exemple pour moi, c'est Irishman versus Uncut Gems, OK? Irishman, c'est très bien. Évidemment, il y a d'énormes qualités. Il y a vraiment des bonnes choses, mais ça reste quand même peut-être un... Tu sais, je pense qu'on lui donne un peu un passe-droit, vu que c'est Scorsese, vu qu'il y a De Niro, tout ça. Même si, tu sais, c'est loin d'être un film facile à faire, puis c'est quand même une œuvre impressionnante, mais...
Non, il y a une maîtrise. Scorsese, c'est quand même un maître, le maître à l'œuvre, puis on le sait, mais tu sais, c'est ça. Mais compare encore une fois à Wolf of Wall Street, moi, c'est ça, pas autant derrière Irishman que je pouvais être enthousiaste d'un Wolf of Wall Street, juste pour en nommer deux récents du même cinéaste. Bon,
et c'est pas très risqué de mettre en nomination Martin Scorsese et, au contraire, mettons Uncut Gems, qui sont comme les frères Safdie, c'est un peu les héritiers spirituels de Scorsese en partie, là, du moins. Ils font quand même leur propre truc. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Scorsese, à l'époque de Taxi Driver, tout ça, on y donnait pas des nominations. Puis là, t'as comme un peu les nouveaux Scorsese, si on veut, là, pour résumer grossièrement, qui sont là, puis on les ignore, tu sais. Puis pour moi, ça symbolise complètement c'est quoi les Oscars, tu sais. C'est que tu y vas vers les choix faciles, tu y vas vers, genre, tu sais, des films bien safe, qui sont comme bien le fun. Hey, Ford versus Ferrari, pour vrai, tu viendras pas me dire, là, qu'il y a pas au moins 30 films américains meilleurs que ça cette année. dont Lighthouse. Moi, je l'ai vu.
Non, j'ai pas vu ça. Moi,
tu l'as vu? Bon, bravo.
Moi, je veux votre critique de ça. Là.
Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas mauvais dans son style. C'est un film divertissant. Les scènes de course sont très bien. Il y a des bons acteurs. C'est le fun. Mais tu sais, l'écriture est tellement cartoonesque. C'est les gros méchants américains versus. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. C'est l'italien.
Ouais, c'est ça.
Ferrari, l'italien, là, qui est une espèce de caricature, là, genre quasiment méchant James Bond versus le beau grand américain, offusqué dans sa fierté, là, puis qui va se mettre à dire OK, on va construire une Ford, puis c'est comme USA, USA. Tu sais, c'est genre
ouais, ben, c'est ça.
C'est le
Rocky
du film de char, là.
Tu vas trop vite, Ford contre Ferrari. James Mangold, quand même un cinéaste, tu sais, il a jamais fait vraiment de mauvais films, mais il a jamais fait non plus, je crois, à mon œil, un genre de film. Qui a été comme, tu sais, mettons Walk the Line, Girl Interrupted, c'est des bons films.
Ouais, c'est ça, c'est un bon cinéaste,
Mais c'est ça, c'est pas, mais sans plus, bon, à mon avis. Quand même, mais James Mangold, on va quand même y donner, il a scénarisé la plupart de son œuvre, hein, la plupart de ses films. Il a scénarisé Walk the Line, notamment, tu sais, je veux dire, il est quand même derrière, avec passion, ces projets-là, des projets qui, by design, sont des films, tu sais, qui interpellent un large public, bon, puis c'est bien correct, c'est pas un problème,
puis,
ça, en soi.
Puis, je sais que vous êtes pas d'accord avec la majorité des gens, mais Logan, quand même, il y a comme un... Je trouve qu'il y a quand même plus une signature que n'importe quel autre film de X-Men, de Bryan Singer ou de la grosse crap...
Je peux voir.
Ouais, mais on n'aurait pas donné le score du meilleur film à Logan non plus. C'est un peu ça que...
Non.
Que je trouve weird cette année de voir Ford versus Ferrari. Pour tous les Oscars techniques, le son, tout ça, oui, c'est correct. C'est un film impressionnant.
Ouais, au lieu d'Uncut Gems, là, tu sais, puis comme tu disais aussi, Jojo Rabbit, au lieu d'Uncut Gems, il y en a beaucoup que Uncut Gems passerait avant, mais ouais.
Ben oui.
Bon. Ouais. OK, Ford contre Ferrari. Qu'est-ce que c'est? En fait, le synopsis est dans le titre. T'as notre ami... les deux protagonistes, c'est Matt Damon, qui interprète Carroll Shelby. Ça, c'est comme un designer de voiture un peu légendaire, là, pour des raisons que le film un peu montre pourquoi, là, il serait cette espèce de constructeur un peu légendaire. Et le conducteur Ken Miles, un Britannique là, qui a justement amené Ford vers de nouveaux sommets avec justement la voiture conçue par notre ami Matt Damon, Carroll Shelby. Bon.
Puis c'est un film d'époque qui se passe dans les années 60.
Oui, dans les années 60, c'est ça. Et c'est en fait... Ford est un peu en crise existentielle parce que oui, leurs ventes vont bien, mais sont un peu comme justement, c'est un peu pépère, là, tu sais, leur image versus tes Ferrari qui sont comme toujours, tu sais, c'est eux qui gagnent toutes les courses, tu sais, c'est bon. Et là, tout à coup, ils veulent rentrer dans le monde des courses. Puis tu sais, c'est pas n'importe quelle course, tu sais, c'est pas comme nous, nos références, c'est plus, mettons, la Formule 1, par exemple, aujourd'hui, je crois. Mais en tout cas, dans les années 60, là, le 24 heures de Le Mans, en France, c'était comme la grosse affaire. En tout cas, le film nous montre à quel point c'était la grosse affaire. Et là, tout à coup, Ford se lance là, à l'arrache, genre 3 mois avant, décide d'embarquer dans la course et de vaincre Ferrari. Parce qu'au début, en plus, ils essaient d'acquérir Ferrari qui était comme en faillite, puis là, Ferrari, ils font comme un genre de fuck you, puis là, ça devient personnel. Tu sais, il faut combattre les méchants italiens, le méchant Ferrari. Puis effectivement, Ferrari, là, Enzo Ferrari, est lui-même un peu dépeint comme un genre de chef de mafia italienne. Là. C'est vraiment cliché, ça n'a aucun crise de sens. Et bon. Et puis là, évidemment, ces deux têtes fortes, là, des bons mon vieux American hero, là, old school, old fashioned, qui, tu sais, puis même il y a une scène où ils se battent là, les deux ensemble parce qu'ils sont pas d'accord, puis t'as comme la femme de l'un, hey, pauvre actrice, pauvre rôle, son rôle est mince que chez mince, c'est pas chic. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui m'énerve plus, un personnage féminin absent ou un personnage féminin comme ça. Tu sais, c'est vraiment un genre de trope, là, l'espèce de femme pseudo-forte, mais que finalement, elle a aucune incidence sur le récit. Là.
Ouais,
c'est
vraiment
un trope quasiment pire que genre une femme soumise, là, tant qu'à moi. Là, moi, je le vois long comme le... Tu sais, elle est genre là, puis il y a comme une scène où elle pète une coche dans un char, mais tu sais, je veux dire, ah, oh, ouais, je suis pauvre fille, tu sais, pauvre rôle, quelle minceur. En tout cas. Puis là, tu sais, fait que c'est comme... Puis j'avais lu une couple d'articles sur cette année, c'est comme si c'est l'année où on célèbre les genres d'hommes blancs du passé. Puis j'étais comme, hey, calme-moi, tu sais, c'est tout le temps un peu c'est un peu tout le temps comment que les Oscars exacerbent là, des débats qui n'ont pas vraiment lieu d'avoir. Puis tout à coup, les films, ils représentent des symboles bizarroïdes, extrapolés, bon, tout ça. Puis j'étais comme pas tant d'accord. Autant, tu sais, oui, Irishman, c'était un peu sur ça. Autant, c'est pas le temps, mais Hollywood, c'était un peu sur ça, bon. Mais quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait « Ouais, j'avoue que je comprends l'écœurant, tu sais. » Quand t'es mets back-à-back ces films-là, puis Ford contre Ferrari, c'est comme la cerise sur cette crise de Sunday-là, là. J'avoue, là, tu sais, le vieil American hero, là, avec la tête forte, là, qui veut, comme, gagner à tout prix, là, je l'ai vraiment trouvé fatigué, là. Cette fois-ci, ça m'a pas enchanté zéro. C'était comme pas assez drôle. C'était comme pas assez rien. Pas assez entertaining non plus, en fait, tu sais, parce que ça essaie des fois trop d'être dramatique, puis la vie familiale, le fils de Christian Bale, oh my god, puis c'est cartoon, là. C'est un film tellement simple, là. Tu comprends les enjeux en une ligne, tu comprends les personnages en une seconde et quart. C'est cartoon.
Ouais, ça dure deux heures et demie,
man.
Deux heures et demie. Voyons donc.
C'est interminable.
Puis en fait, moi en plus, je suis allé là vraiment, je l'ai vu en format IMAX. Mm-hmm. J'étais vraiment enthousiaste de le voir. Je suis quand même un très gros fan des films
de IMAX
en général. Mm-hmm. Ouais. Et j'avais très hâte de voir le film. Il avait l'air d'avoir une bonne rumeur. Le film, il y avait eu une sélection dans un festival prestigieux. Je m'en rappelle.
Telluride, TF1.
Ouais. Et j'avais très hâte de le voir. Et le côté peut-être qui m'intéressait le plus, c'était le côté un peu, tu sais, genre ingénieur, tu sais, puis comme comment il fait le travail, comment il réussit à monter un bolide puis à battre Ferrari, tu sais. Puis ce côté-là, il est comme à peine effleuré. Puis c'est vraiment ça, je trouve, qui aurait pu être la force du film. Un peu à la manière de, tu sais, l'aviateur de Scorsese, qui est comme beaucoup de similitudes. Puis tu sais, là, tu vois vraiment, justement, Howard Hughes, tu sais, qui va toucher son avion, puis dire non, c'est pas assez aérodynamique, faut qu'on fasse ça, puis qu'il pète des coches, tu sais, mais. C'est là où, tu sais, puis Aviateur, c'est pas nécessairement le plus grand film de Scorsese, mais tu sais, c'est super efficace, c'est super bien joué, puis il y a comme, il y a quelque chose qui fait vraiment que tu t'accroches aux enjeux dramatiques, tu sais. Là, c'est juste que c'est tellement gros comme le bras que dès le départ, tu sais bien comment ça va finir, puis tu sais que, genre, ça va finir avec un damier américain, là, genre secoué en slow motion.
Oh my
genre,
god, ouais, USA, sourit, USA, là. Puis Christian Bale, honnêtement, cette fois-ci, ça l'a pas fait. Il m'a vraiment agacé. Tu sais, là, il joue gros, là. Tu sais, il joue justement le mal engueulé, là, le britannique, mais tu sais, qui est comme un peu un genre de paria parce qu'il a comme une mauvaise attitude. Puis justement, encore pire, en fait, que le personnage de Christian Bale, c'est, tu sais, le personnage de, tu sais, le genre de directeur marketing chez Ford, là, qui a tout le temps les cheveux léchés, là, puis tu sais, comme qui représente le genre d'establishment, là, tu sais, contre lequel le bon vieux républicain se bat, là. Bon, bref. Oh my god. Puis là, évidemment, tu sais, ils s'aiment pas les uns les autres parce que, tu sais, parce qu'il est trop imprévisible. Christian Bale est comme trop, justement, imprévisible, puis tout ça, wild card. Mais Christian Bale, là, cette fois-ci, je le sais pas, là. Je voyais un stunt, je voyais pas une performance incarnée, là. Je voyais vraiment. Puis en plus, c'est ça qui gossait, tu sais, c'est que justement, le côté ingénierie était ramené à une expression tellement fucking simple parce que, tu sais, lui, il Ken Miles, là, dans ce film-là, c'est comme un super héros, là. Il conduit le char, il arrête de conduire le char, il dit telle chose marche pas dans l'auto, puis c'est comme ok, c'était ça le côté ingénierie, c'était genre le personnage héroïque trop fort, trop bon, qui fait dire exactement c'est quoi tous les problèmes sur la voiture, puis si ça marche pas, c'est parce qu'on l'a pas écouté, parce qu'il est trop fort, trop bon, puis trop clairvoyant. Ah, sérieusement, là. Oh là là.
Ben, ce film-là m'a fait m'ennuyer de Rush, de...
Hey!
Comment il s'appelle? Ron Howard, hey, qui est pas un plus grand cinéaste, mais genre...
Parce que Rush, j'avais trouvé ça ordine, là, puis j'ai pensé la même affaire. J'étais comme, Rush, t'es quasiment meilleur. Sam Rush, t'es meilleur.
Vous me donnez le goût,
là. Non, c'est ça.
Ouais.
Mais puis en fait, tu sais, c'est ça, Ford versus Ferrari, ça m'a un peu évoqué aussi de Founder, là, sur l'histoire de McDonald's, là, avec Michael Keaton.
Ça, c'était pas bon, ça!
Tu sais, que je trouve, tu sais, sur papier, c'est comme une histoire vraiment fascinante. Tu sais, comme ce combat-là, Ford versus Ferrari en 66, là, puis, tu sais, sur papier, je veux full entendre parler de ça, puis comme découvrir comment ça s'est fait dans les coulisses, puis tu sais, peut-être lire un livre ou voir un documentaire ou quelque chose comme ça. Et le film de fiction... pour tous les effets numériques, puis le budget, puis les grosses vedettes, tu sais, réussit pas vraiment à lever la sauce.
Hey, ouais, Defender, c'est plate. Il y a comme, tu sais, tant qu'à faire, comme pourtant, tu regardes un documentaire ou un vidéo YouTube de 20 minutes qui t'explique c'est qui le gars, là, il y a aucun intérêt là, à ce film-là.
Tu sais, mais j'ai pas. Honnêtement, quand je suis sorti de Ford versus Ferrari, tu sais, j'avais pas non plus passé un mauvais moment.
Non, mais en fait, c'est ça, moi non
correct,
plus. Moi non plus, mais c'est parce que t'acceptes.
Mais quand tu le vois dans la course des Oscars, t'es comme, hey guys, mais come on.
En fait, moi, j'ai vraiment baissé mes standards. Comme le film a commencé, après 2-3 scènes, j'ai fait, ok, c'est vraiment ce genre de film-là. Je m'y attendais un peu, mais je me suis quand même dit naïvement, il y a peut-être de quoi là-dedans, dans l'écriture. C'est comme, tu sais, James Mangold, c'est pas le pire non plus. C'est pas un tâcheron tant que ça, tu sais. J'étais comme, mais vraiment, moi, pour en tirer du plaisir, il a vraiment fallu, là, que mon esprit critique soit comme dans mes talons, ou je sais pas, là, pas, j'y pense pas, là, puis je sois comme un peu bêta, puis j'étais comme des chars qui rêvent, puis genre.
Ce qui est fâchant. Puis je trouve vraiment que, tu sais, des fois, on reproche aux Américains de simplifier, tu sais, certains passages historiques, tout ça, puis tu sais, même la course en tant que telle est comme pas super bien expliquée, tu sais, genre, parce qu'une course sur 24 heures, puis tu as comme quatre pilotes qui, genre, se passent le relais, puis tu sais, pendant que l'un course, l'autre s'en va dormir, tout ça, puis tu sais, il y a comme un peu des détails de la course qui sont comme pas full bien expliqués, puis ça aurait été cool de, comme, plus le montrer, pourquoi, tu sais. Puis, tu sais, le film sportif en tant que tel, c'est facile de faire des... C'est une structure de base qui permet vraiment d'avoir comme ça une quête solide, un objectif clair, des ennemis, des équipiers, tout ça, tu sais, d'avoir comme vraiment une structure limpide. Mm-hmm. Donc, tu pourrais te permettre justement de complexifier un peu plus soit les personnages, soit l'enjeu, soit d'y aller vraiment en détail. Puis, ce film-là le fait pas. Là. Mais, je veux dire, le genre sportif en soi, c'est super riche. Là. Puis, il y a comme toutes sortes de films qui peuvent réussir, justement. Oh,
ouais, c'est-tu un autre film qui utilise très bien le sport, puis qui te le crisse pas dans la gorge, puis qui inclut les gens qui sont pas nécessairement tripeux du sport? Ben, Uncut Gems, il aurait pu avoir sa place absolument dans un top des Oscars.
Ah, c'est clair. Ben, c'est moins sur le sport que genre ce qui entoure le sport.
Uncut Gems, c'est quand même un film, c'est un peu champ gauche pour les Oscars, tu sais. On arrête pas d'en parler comme sûr, un bête. Moi, ça m'a pas surpris qu'il soit pas nommé, pour être bien honnête. Mais autant que c'est meilleur que comme la grosse moitié de ces films-là.
Mais genre, zéro nomination. Qu'il soit pas Best Picture, peut-être, mais zéro nomination, c'est vraiment tough, là. Je suis comme...
Ouais, j'avoue.
Guys, êtes-vous au courant que ce film-là est sorti, là? Puis genre... Tant qu'à nommer tous ces films-là.
Sais-tu, moi, quel film, là? Je veux pas monopoliser le temps, parce que Rémi, t'as plein de beaux films à jaser, là. Je sais, c'est quoi dans l'agenda, là. Mais moi, il y a un film, là, que je trouve... Que tant qu'à faire, là, tant qu'à être dans le film à Oscar, là, dans le film américain, là, slick, un peu simpliste et tout, là, moi, il y en a un que j'aimerais dire, que j'aimerais jaser, que j'ai trouvé meilleur, en fait, que la majorité des films que je viens de nommer, là. C'est Bombshell, de Jay Roach. Est-ce que vous l'avez vu, les gars?
Non.
Non, pas encore, mais j'en ai
plus entendu parler. C'est le truc avec Seth Rogen, là?
Non, ça c'est Long Shot, c'est un autre truc.
Non, Bombshell, c'est sur les scandales là, de harcèlement sexuel à Fox News là, autour de notamment Roger Ailes. Là. Mais ce qui est intéressant, parce qu'en fait, après avoir vu Bombshell, en fait, le sujet m'avait tellement intéressé, mais j'avais trouvé que le film avait un petit peu brossé des gros traits là, sur quelque chose qui est comme évidemment beaucoup plus complexe que ce que le film nous laisse sous-entendre. Et puis en fait, ma copine et moi, on a commencé à écouter la série de Loudest Voice, qui est un peu sorti en parallèle. Puis c'est vraiment drôle. En fait, tu sais, mettons, Nicole Kidman dans Bombshell joue le personnage Gretchen Carlson, qui était chez Fox News pendant longtemps, bon, tout ça. Et c'est un peu elle qui a été la première personne à un peu attaquer Roger Ailes sur la base de harcèlement sexuel, bon, tout ça. Puis c'est Nicole Kidman qui le joue dans le film, puis c'est Naomi Watts qui le joue dans la série. Puis tu sais, c'est drôle un peu parce que, tu sais, c'est comme deux actrices australiennes, deux amies dans la vie. T'sais, on le sait un peu que c'est comme... Il y a comme une carrière un peu en parallèle, tu sais, drôlement. Puis là, les deux jouent la même personne la même année. En tout cas, ça m'a fait un peu rire.
Yeah. Et même The Morning Show, là, le show vedette d'Apple TV, c'était un peu aussi ça, la base.
C'est ça,
là,
c'est... apparemment. Hein?
Ouais, c'est ça. Puis j'avais commencé à l'écouter. J'ai écouté les trois premiers épisodes. C'était très bien. C'est juste que j'ai manqué de temps pour écouter la suite. Puis finalement, j'ai pas... je me suis pas abonné à Apple TV. Je trouvais que ça valait pas trop la peine.
Ouais.
Mais ça aussi, c'est comme exactement... ça commence le pilote, puis c'est... Là, c'est genre Steve Carell, qui est un animateur vedette, qui est comme soudainement accusé d'agression sexuelle, puis qui se fait genre dire « Tu rentres pas aujourd'hui. » Et là, soudainement, c'est comme... Tu sais, lui, c'est comme le co-animateur. En fait, il était deux, avec Jennifer Aniston, là, son personnage. Et là, soudainement, ben, elle fait le show tout seul, puis là, ils doivent trouver un remplaçant. Puis bon, c'est un peu ça la prémisse de ce show-là.
Mais c'est ça, je suis pas en train de dire que Bombshell est un grand, grand film. Je pense que son sujet est plus intéressant que le film, ou du moins la manière comment c'est fait. Par contre, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont très bien rendues dans le film. T'sais, notamment, il y a comme des scènes, il y a Margot Robbie qui joue un peu... genre de la genre de nouvelle là, un peu ingénue là, qui débarque d'une genre de famille hyper chrétienne catho, tu sais, puis qu'elle, c'est son rêve de travailler à Fox News parce que Fox News est donc un réseau qui a donné une voix à une Amérique oubliée, bon, blabla. Puis là, elle un peu tout elle tombe des nues sans faire de mauvais jeu de mots là, quand elle se fait un peu il y a une scène avec Roger Ailes là, relativement tôt dans le film, puis le malaise, la façon comment elle est filmée cette scène là, je pense qu'elle va juste assez loin aussi pour te faire vraiment ressentir le malaise de ces agressions-là, puis de ce climat-là, puis la toxicité de cet environnement de travail-là, puis comme qu'est-ce que les femmes dans des environnements de travail comme ça auront à vivre. Tu sais, je pense que c'est quand même pas crétin. Je pense que c'est quand même bien fait. Puis c'est une héroïne un peu surprenante, là, tu sais, que Megyn Kelly, tu sais, Charlize Theron joue Megyn Kelly. Tu sais, Megyn Kelly, c'est pas non plus... on dirait que dans ma bulle, là, mettons, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, l'animatrice vedette de Fox News, c'est un drôle de... C'est comme un drôle d'héroïne. Mais en même temps, ce film-là, donc, s'adresse à des gens avec plus des penchants libéraux. Fait que c'est comme drôle, parce que t'es comme dans le havre républicain de chez républicain, t'es chez Fox News, mais clairement, je pense que le film a une approche libérale à tout ça, puis et donc les gens qui visionnent le film... Fait, en tout cas, c'est assez curieux, je trouve que c'est un film qui promouvoit donc étrangement un genre de dialogue dans une Amérique qui est complètement... Il y a un dialogue de sourds total, là, t'sais, entre la droite et la gauche aux États. Je trouve que ce film-là, il est relativement entre les deux, t'sais, puis je l'ai vraiment trouvé rafraîchissant pour ça, puis bien pour ça.
Okay.
Puis, fait que je le mets juste sur votre radar. Puis la série The Loudest Voice, je veux pas épiloguer, là, mais moi, en fait, j'ai quasiment préféré Bombshell à The Loudest Voice pour plusieurs raisons que j'élaborerai pas ici. Okay. Fait que, ouais, bref, une belle surprise là, dans le... dans le film américain de base, mais plus des fois. Là. Ce serait Bombshell, mon petit pic du moment.
Hey, puis je sais que... Je sais, pour revenir aux Oscars, là, je sais que il n'y avait pas de chance que ça aille là, mais The Lighthouse, ça aurait été le fun. Là. Une couple de petites nominations de plus. Là, un petit comédien, là, tu sais, un des deux. Là, petite nomination.
Moi, j'étais sûr. Moi, je pensais que... Je pensais pas qu'il y aurait beaucoup de prix parce que c'est un film weird.
Ouais,
mais
c'est
sûr. J'avais pas mal foi en Willem Dafoe, en fait, comme acteur principal. Puis, tu sais, c'est ça. Ça a pas donné. Puis, dans le fond, ça résume bien ce que je pense des Oscars. Mais, tu sais, vraiment, il était tellement bon là-dedans. Puis, je pense que c'est un film aussi qui va... Avec les années, je pense qu'on va revenir souvent à ce film-là. Puis, ça va être un peu une espèce de film, genre, que les gens vont ressortir, vont dire... Voyons, quand ça, personne n'en a parlé à sa sortie. Tu sais, ça a pas fait beaucoup d'argent, tout ça. Mais vraiment une belle perle là, dans l'année. Là.
Mais la catégorie Best Actor est quand même assez forte là, cette année. J'ai l'impression que c'est comme une des catégories fortes. J'ai pas vu Pain and Glory. Là. Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui. Non, mais il est vraiment bon, Banderas. Là. Il y a clairement d'affaires là, à mon œil. C'est un bon Almodovar. Almodovar, on dirait qu'il manque un petit peu de sang chaud. Là. Je trouve que ses films sont toujours bien faits. C'est bon, c'est mature, c'est riche. Mais on dirait que là, il manque un petit peu de folie, là, je trouvais. Mais c'est pas un mauvais film, loin de là, Douleur et gloire pour moi. Là.
Puis il y a des bonnes chances à soit Joaquin Phoenix qui le gagne, mais tu sais, mon vote, mon cœur, je dirais même, est du côté d'Adam Driver. Là, la performance de Joaquin Phoenix est vraiment excellente, mais tu sais, il joue de la folie. Là,
c'est
comme
plus
dans,
un stunt, c'est ça. C'est ouais, un petit peu c'est plus, ça. Ouais.
Puis malheureusement, ça marche beaucoup aux Oscars. Puis Adam Driver, c'est qu'il y a tellement de c'est tellement de subtilité dans son jeu. Là. Il joue sur une mince ligne pour pas qu'il ait l'air d'un asshole, mais qu'en même temps, les émotions négatives, ils ressortent, mais en même temps, il est attachant. Mais il a comme... Il joue avec tellement de facteurs que j'aimerais vraiment ça, mais j'ai l'impression que ça va aller plutôt du côté de Joaquin Phoenix. Là.
Mais c'est vrai que c'est fort. Puis même Jonathan Pryce dans The Two Popes, que j'ai finalement vu aussi. Hein, où ça aussi, en fait, j'étais assez positif. Là. J'ai bien aimé ça. Puis c'est une belle performance aussi. Non, c'est vrai que...
Mais DiCaprio n'a pas d'affaire là, on va se le dire.
Ben, c'est peut-être ça.
Oui, il est bon. Puis c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, ça c'est clair. Mais genre, c'est vraiment pas son meilleur rôle.
C'est vrai, ouais.
Oui, tu sais, il pète une coche le fun dans la roulotte, puis genre, oui, charismatique, évidemment, mais comme, honnêtement, tu compares à ce que Willem Dafoe a fait, puis c'est un personnage tellement, genre, plus grand que nature, mais bon.
Hey, meilleure actrice, on peut-tu se le dire, Saoirse Ronan est incroyable, elle est toujours bonne, ça n'a pas de bon sens.
Elle est toujours bonne, ouais. Ça, mais j'ai pas vu Little Woman, fait que je sais pas...
Ah non,
mais...
Voyez. Ben, toi, je sais pas, tu l'as vu, t'as trouvé ça correct, de ce que j'ai compris, c'était pas un grand coup de cœur.
Ouais, j'ai bien aimé ça. Ceci dit, par contre, les acteurs, c'est peut-être la meilleure chose du film, dans le sens que c'est un méchant casting, ils sont bien dirigés, les scènes, il y a évidemment plusieurs scènes entre les sœurs, puis genre, c'est super cool, t'as tout le temps le goût de passer du temps avec eux. Non, c'est peut-être juste... C'est un film d'époque que je trouve relativement classique. Puis, Greta Gerwig, elle a quand même genre un peu revampé ce récit classique.
Ouais, c'est ça que
là,
je le trouve pétillant, moi, le film. C'est ça que j'ai trouvé le fun. Ouais. Je l'ai pas trouvé justement embourbé dans le film d'époque un peu plate, là, à défaut d'avoir un mot plus riche que ça. Là. Non, je l'ai trouvé quand même. Je trouvais qu'elle mettait la petite épice, le fun, le petit Greta Gerwig touch là, à cette histoire-là qui faisait franchement du bien. Puis
ça, c'est très bien. Puis vraiment, je pense qu'elle va continuer à avoir une très bonne carrière de réalisatrice. Tant qu'à jouer au jeu de comparaison inutile, mais je veux dire, Lady Bird, moi, j'ai préféré ça. Je trouvais que c'est des personnages plus forts puis plus originaux. Ensuite, évidemment, je veux dire, là, c'était déjà un récit existant. existant, ben, basé sur une vraie auteur, puis son œuvre. Donc, je comprends qu'on ne demande pas nécessairement à comme, tout éclater la formule.
Non.
Mais non, c'est très, très bien. Puis, il y a eu quand même, je ne me rappelle plus, est-ce qu'il y a eu plusieurs nominations, sûrement pour les costumes, j'imagine aussi. C'est super bon aussi. Donc, c'est vraiment pas un. Mais tu sais, mettons un autre film de femme que j'ai adoré cette année, puis que rien, c'est The Farewell, là, tu sais.
C'est un mandarin. Aurait peut-être dû être nommé.
Était vraiment, vraiment bonne. Ouais. Moi, j'aurais donné même meilleur scénario, meilleure réalisation. J'ai vraiment trouvé que c'est comme
un film. C'est vraiment touchant ce film-là.
Fait que ça fait-tu notre tour des Oscars? Bon. Bravo Brotherhood aussi, parce que on l'a un peu pris pour acquis au début de l'épisode, mais quand même, hein, c'est vraiment pas rien. Deux années de suite, Maria Gracia, deux années de suite aussi comme productrice aux Oscars.
Ah non, c'est fou.
C'est fou aussi.
Quand même. Même pas 30 ans, tu sais. Elle travaille fort, elle a du flair, puis elle est talentueuse, donc elle mérite absolument tout ça. Juste un mot peut-être sur l'animation aussi, parce que...
J'allais dire ça, moi aussi, avant en closant.
Parce que ce qui est dommage, en fait, c'est que pour le meilleur long métrage d'animation, c'est uniquement donc la branche d'animation qui vote. Ce qui est, selon moi, une bonne façon de faire les choses.
Ouais.
Mais pour le court-métrage d'animation, c'est toute l'académie. Ce qui veut dire que ça amène pour moi à ce que les courts-métrages d'animation... ça soit des choix genre sûrs et accessibles, tu sais, faciles, et qu'on on reconnaisse peut-être moins toute la technique puis le travail puis tu sais des qualités intrinsèques à ce médium, tandis que dans le long métrage justement c'est là que c'est uniquement l'académie qui vote, puis tu sais les nominations sont pour moi plus fortes d'année en année en long métrage. Évidemment, tu sais, bon, des fois on peut se dire, c'est talent d'avoir toujours un Pixar ou des trucs comme ça, mais écoute, ce sont quand même des leaders de l'industrie. Mais, tu sais, est-ce que c'est juste la rancœur parce que t'adores Chev et pas là-dedans, peut-être?
Man, mais, ça, c'est un vol en plein jour, là. Je suis désolé, là. Tu sais, je l'ai vu. Moi, je l'ai tellement aimé, en fait, que je l'ai même triché mes règles, puis je l'ai même mis dans mon propre, tu sais, dans mon top 10. D'habitude, je mettais comme pas vraiment les courts-métrages là-dedans. Non, c'est Physique de la tristesse. C'est borderline un chef-d'œuvre, là.
Ça aurait dû être non seulement nomination, mais ça a dû le gagner. C'est un peu ça qui est dommage.
Honnêtement, oui. C'est un peu exigeant peut-être pour la faune d'Oscar qu'on s'est habitué, là, effectivement, pour les raisons dont tu viens de mentionner. Mais,
alors c'est... que le long métrage, t'as quand même ça. J'ai perdu mon corps. Oui. T'as aussi Klaus, une production Netflix, apparemment, c'est super bon, j'ai pas encore vu.
Mm-hmm.
Puis Missing Link du studio Laika.
Surprenamment. Mais j'ai perdu mon corps, hein, et vraiment, et la conception sonore aussi de ce film-là, ça aurait dû être nommé, moi, je trouve, là. Il y a vraiment, puis il y a tellement des scènes de thrilling dans J'ai perdu mon corps, tu sais, avec la main, là, à
la main avec un pigeon. La main qui se promène, là,
T'es complètement, là, je veux dire, le souffle te coupe, c'est vraiment dans les grandes scènes d'action du cinéma de l'année, puis c'est une main, puis un pigeon, là. Ou en dessous d'un métro, tout ça, il y a vraiment des moments où t'es viscéralement hyper investi, puis un travail de son, puis l'animation est magnifique. Moi, ce serait mon favori, là. Effectivement, j'ai pas vu Klaus, le film Netflix, mais...
En parallèle, c'est que t'as des belles émotions, en plus, avec les personnages... ça reste touchant, puis ça reste crédible, même si c'est de l'animation, puis que t'as comme une histoire d'une main qui se promène dans une ville, là. C'est quand même un tour de force, là, puis c'est pas très long, puis c'est... Ça passe bien, là. C'est bien rythmé, c'est accessible. C'est étrange un peu la catégorie animation. À chaque année, il y en a comme un qui est évident, là, mais cette année, mon vote personnel irait aussi à « J'ai perdu mon corps », mais en même temps, les autres pour avoir autant de chance.
Ben, c'est sûr que Toy Story 4, c'est le frontrunner, là. Je veux dire, juste en termes de technique, Pixar repousse tout le temps un peu les limites, là.
Mais je sais pas, les gens sont pas aussi positifs que ça sur celui-là.
C'est ça.
C'est peut-être pour ça que Missing Link, justement, a gagné aux Globes, qui voulait donner peut-être un prix à Laika, qui est toujours en nomination, mais qui gagne jamais à cause de Pixar. Ouais.
J'aimerais ça, je serais le premier surpris, mais on va pas se mentir que c'est ça, Toy Story 4, c'est le frontrunner, puis n'importe quel autre serait une surprise, tu sais.
Mais j'ai perdu mon corps, si ça gagnait, ce serait une belle surprise. Vraiment,
vraiment cool.
Ouais, absolument. Hey, je veux quand même juste dire que The Lighthouse est quand même au moins nommé pour meilleure direction de la photographie. Hein.
Hey, thank God, là, tu sais, ils sont fait chier à tourner avec des équipements d'époque en pellicule. Ouais. Good job, guys, là. Vous avez mis l'effort quand même, là.
Mais c'est l'année Roger Deakins, là, la photo, là, je pense, là. Puis là, surtout qu'en plus, Universal, on dirait qu'ils mettent le paquet. Là. On dirait que moi, je suis targeté, mon gars. Là. Mon fil Facebook, puis les pubs, là, on dirait que je vois juste des affaires de 1917, puis du behind the scenes qui montrent à quel point Richard Dickens est comme génial, puis à quel point que c'est un tour de force technique. Là.
Est-ce que c'est ça de la meilleure photo, tu sais? Est-ce qu'il faut prendre l'aspect, genre, ça a été difficile pour dire si c'est le plus beau? C'est un peu bizarre, tu sais.
Je sais.
Mais bon, ça, c'est un long débat, là.
Ouais, c'est un long débat.
Fait que c'est les Oscars, ben on va suivre ça avec autant d'intérêt que d'habitude, c'est-à-dire pas beaucoup dans mon cas,
ben,
mais bon, écoute, Team Brotherhood, let's go Québec.
Ouais.
Sinon, Rémi Fréchette.
Oui.
Toi qui es un grand cageophile.
Oui.
cageologue qui étudie avec beaucoup d'intérêt la filmographie toujours plus incongrue de Nicolas Cage, lui qui doit payer des dettes.
Je pense qu'il est dans plus de films par année que j'en écoute par année. Là. Il y a tellement de films de Cage qui sort à chaque année. J'ai de la misère à suivre. Là.
T'avais lu, t'avais-tu partagé? Il y a genre un article super intéressant, un long portrait de Nicolas Cage qui est sorti il n'y a pas si longtemps, là, qui explique
comment
dilapider sa fortune puis tout. Là. Je me rappelle plus de quel site qui avait fait cette entrevue-là, peut-être le Hollywood Reporter. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous irez essayer de googler cet article-là. C'est vraiment très très cool, puis ça explique un peu genre pourquoi il y a soudainement plein de direct ou DVD maintenant c'est des films genre sur du streaming là, avec Nicolas Cage, parce qu'effectivement il joue quand même dans des gros rôles aussi à gauche à droite de temps en temps, donc on pourrait croire qu'il n'y a pas besoin nécessairement de faire ces petits films là. Mais
sur sa page IMDB, là, il y a 6 films en 2019. Hein. 6 films.
C'est fou, là.
Ben, c'est ça, comme... tu sais. Il essaie de faire année, son là. Cash. Oui, ça arrête pas.
Là, il y en a 5 d'annoncés là, en 2020, puis il y en avait 6 en 2018, puis probablement 5 ou 6 en 2017. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là.
mais moi-même, genre, je pense que en 2018, il y avait comme deux de ces films que j'aimais beaucoup, dont Mom and Dad, là, qui était comme super bon. On avait tous aimé ça, je pense. Donc, là, on parle évidemment du nouveau film de Richard Stanley, une espèce de cinéaste culte qui nous avait donné...
Première fiction en beaucoup d'années, là, je pense. Ouais. Sa dernière fiction, ben, c'est sa tentative de L'île du Docteur Moreau en 96. Puis avant ça, sa vraie dernière fiction qu'il a complétée, c'est Dust Devil en 92. Il a fait deux films de fiction, fait que c'est comme... c'est un retour après... C'est comme Terrence Malick, là, qui revient après 30 ans, là. C'est comme... Mais là, c'est le cinéaste indie de sci-fi qui fait des trucs un peu fuck. Okay, le full spirituel dans les trucs ésotériques. Mm-hmm. Fait que oui, il se back en 2019 avec Color Out of Space.
Ouais, et le titre sera familier aux amateurs de Lovecraft aussi. Les affiches, s'il y en a qui les ont vues, sont absolument magnifiques.
Ah, c'est beau, hein.
Donc, qu'en est-il, Rémi Fréchette, de Color Out of Space?
Ben, moi, je vais avoir un avis critique sur le film et non sur Lovecraft, parce que je connais pas beaucoup Lovecraft. Au contraire de ce que les gens pourraient penser, ça devrait être dans mes cordes, mais je suis pas assez familier avec son œuvre. Je connais les grandes lignes, je connais le Cthulhu et compagnie. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que je peux juste comme juger du film, mais...
C'est devenu carrément un adjectif. C'est-à-dire qu'on va dire d'un film ou d'un roman ou d'une pièce qu'elle est Lovecraftienne.
Ben, c'est ça, exactement. Puis je pense qu'on connaît toute l'imagerie de Lovecraft. On sait tout un peu à quoi s'attendre sans trop savoir à quoi s'attendre. Puis c'est ça. Puis grosso modo, le synopsis est assez simple. C'est une météorite qui s'écrase dans une forêt, puis il y a une famille qui habite pas loin, la famille de Nick Cage. Puis la famille de Nick Cage, c'est même pas un personnage, c'est Nick Cage, on s'entend. Puis il est dans la maison avec sa famille, puis là, ben, il y a comme une espèce de couleur mauve qui rôde dans la forêt et qui commence à changer l'environnement autour d'eux et à les changer eux-mêmes. Ce que je pourrais résumer le film bien facilement en disant que c'est comme un Annihilation, mais mêlé avec de la série B puis avec du Nicolas Cage. Fait que c'est vraiment le même genre de prémisse que Annihilation.
J'achète.
Ouais, mais mettons que c'est la version un peu moins intello, un petit peu moins recherchée que Annihilation.
Ouais, ouais.
Tu sais, la famille du personnage de Nick Cage. Je vais arrêter de l'appeler le personnage de Nick Cage, ça va dans le...
Elle fait juste l'appeler Nick Cage, là, rendu là.
Nick Cage.
C'est lui, là. Il se joue lui-même. Là.
C'est ouais, c'est là. Ça. Son personnage s'appelle Nathan. Fait que Nathan, sa famille, ils ont entre autres des...
Nathan
oui?
Cage. Nathan Cage.
Nathan Cage. Ils ont des alpagas
ouais, ouais.
Sur leur terrain. Puis, tu sais, les alpagas vont muter. Lui va sombrer dans une espèce de folie qui va ressembler un peu à du Shining. Là, au travers donc la couleur qui envahit leur environnement va changer autant l'aspect physique que l'aspect psychologique des personnages puis il y a des trucs assez cool quand même, il y a de l'imagerie vraiment trippante. Faut juste pas s'attendre à un très grand film parce que les comparaisons sont faciles parce que dès la base, comme je disais, c'est très Annihilation. Puis Annihilation l'a tellement bien fait il y a 2-3 ans, ce concept-là de la mutation, que c'est un peu dur de suivre ça. Fait que il faut le prendre comme ce que c'est un fun midnight movie avec des belles idées là, quand même de mise en scène. Mais tu sais, l'acting, il est pas top, il est pas super balancé tout le long. Tu sais, c'est.
T'es en train d'insulter Nicolas Cage, là, ou pas?
Oh
là?
My god!
Tu l'insultes, c'est une insulte.
Le pire, c'est qu'au début, il est comme tout en retenue, puis là, à un moment donné, la folie s'empare de lui, puis là, ben, ça devient du Nick Cage, là. C'est comme. c'est un peu inévitable, là.
Comment il avait appelé déjà son style de jeu? Il avait donné un terme à ça, genre. Je pense que c'était du jeu chamanique, là, quelque chose comme ça, là.
Ah, ça se pourrait, ça. Lui, tout, il est full spirituel. Fait que, tu sais, je comprends les...
Il réfléchit aussi comme à sa manière... Tu sais, il a vraiment des théories sur la façon qu'il a de jouer, là.
Ouais, puis... c'est tellement unique, ce qui fait que... C'est sûr que c'est comme attachant, quand même, là, de voir un personnage gueuler de même, puis péter des plombs, puis... mais, tu sais, c'est... L'autre parallèle qui est à faire aussi, c'est que c'est les producteurs de Mandy. Puis c'est pas très loin, en fait, comme style de film. J'ai juste l'impression que Mandy se prenait peut-être plus comme un film d'art en général. Peut-être qu'il est plus expérimental, Mandy, puis celui-là, il est un petit peu plus série B. Mais Nick Cage est utilisé un peu de la même façon, où tu vas avoir une espèce de descente aux enfers, puis là, il va péter sa coche dans le troisième acte. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un peu comme... Si vous avez aimé Mandy, ça va vous plaire, mais en même temps, c'est pas exactement le même ton que Mandy, c'est peut-être plus léger. Moi, je pense que c'est bien. Puis là, Richard Stanley a annoncé aussi qu'il allait faire deux autres films adaptés de Lovecraft. Ça va être des genres de sequels spirituels, là. Ça sera pas exactement des suites directes à Color Out of Space. Puis écoute, je pense que c'est une bonne personne pour adapter Lovecraft. Il y a le côté un peu ésotérique pour fitter avec toute la philosophie puis l'imagerie de Lovecraft. En même temps, il fait des trucs assez plaisants pour le public de festival. Malheureusement, on l'a pas eu à Fantasia, celui-là, mais ça aurait bien marché dans une projection à 10 heures avec la salle pleine, puis tout le monde qui gueule, puis Richard Stanley qui débarque avec son gros chapeau avec une plume, puis une canne, puis...
Moi, Rémi, là, je le connais pas vraiment, Richard Stanley. Peux-tu me faire un petit topo de qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi ses hits un peu, tu sais?
Mais c'est ça, en fait, c'est que Richard Stanley, c'est les deux films qu'il a fait, c'est en 90 puis en 92, il a fait Hardware puis Dust Devil. Moi, j'ai vu juste le premier qui est Hardware, qui est comme un huis clos avec un robot tueur, mais c'est vraiment unique comme style, puis c'est très 90s, c'est de l'indépendant, là, un peu trash 90s. Mm-hmm. Puis c'est ça, puis après ça, lui, tu sais, en fait, c'est deux films un peu plus indépendants, puis là, il s'est fait donner son gros budget en 96 pour faire...
Ouais, Le Dr. Moreau, c'est ça. Ça, c'est Dr. Moreau, ce que je savais, ouais, c'est ça, OK.
Qui finalement a donné un excellent documentaire, parce que pour ceux qui le savent pas, Richard Stanley s'est fait chasser du plateau après c'est une ça, semaine de tournage, puis lui, c'était comme son projet de vie, là, il voulait adapter ce roman-là, il y avait des designs, là, des concepts artistiques, il y a vraiment une vision singulière comme gars, c'est basé beaucoup sur la mythologie, fait qu'il intégrait ça dans son processus, puis finalement, ça a tout été changé en cours de route, tu sais, c'est pas sa vision qui a été à l'image,
puis aussi, le documentaire... c'est une des dernières performances de Brando, qui était déjà rendu genre absolument exécrable. Là.
Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est que lui, Brando, il a cliqué avec Richard Stanley parce que c'est un weirdo. Puis Brando avait donné sa bénédiction, puis il avait embarqué dans le projet. Puis quand Richard Stanley s'est fait kicker out du projet, ben c'était comme l'allié de Brando. Puis le Brando, il a fait « Hey, fuck ce projet-là ». Puis il a juste foutu la merde tout le long du tournage. Puis, tu sais, je vous gâcherai pas de spoiler parce que c'est vraiment surprenant, là, toute cette histoire-là. Ça s'appelle, en gros, le documentaire, ça s'appelle Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Tomorrow. Mm-hmm. Bon, cherchez Lost Souls, vous allez le trouver. Mm-hmm. C'est un super bon documentaire, puis je l'avais vu au BIF, moi, puis Richard Stanley était là. Puis, tu sais, c'est vraiment un personnage, le gars. Là. C'est ça, il est comme habillé avec des. Il a comme des pendentifs avec plein de grosses bagues, là, avec des. Genre une espèce de long trench coat, avec un chapeau avec une plume, puis il se prenait avec une canne, avec un bout en métal. Tu sais, c'est comme. C'est un, il est comme accessible, mais en même temps, il est un peu. Il est un peu imposant, puis il est vraiment particulier. Là.
Ouais, il est honnête à lui-même, là, dans le sens qu'il s'assume comme personnage, puis.
C'est ça. Puis c'est ça qui se transmet dans son cinéma. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais à travers les années, ben, le fait qu'il ait comme une vision aussi singulière, ça fait qu'il n'a pas fait beaucoup de projets. Ben, il a pratiquement pas fait ça de fiction. Il a participé à des anthologies. Puis sinon, il a fait des documentaires sur. Je pense que c'était sur justement de la mythologie puis des trucs spirituels, mais je les ai pas vus ces docs, là, fait que je peux pas rentrer là-dedans. Là.
C'est un peu comme si Tim Burton, si Disney avait pas voulu l'avoir dans ses pattes. Là,
ouais, c'est vrai dans le fond. fait que c'est ça, fait qu'il a comme pas eu la chance de faire son gros film, fait que sa carrière a un peu, c'est un peu effoiré, là, pis ça a pas marché. Pis là, ben écoute, la dernière fiction qu'il a complété en 92, pis là on est en 2019, pis là il fait son nouveau film, fait que ben, on était en 2019, là, pis il fait ce film-là, fait que c'était comme un grand retour, mais en même temps, tu sais, grand retour, c'est pas un grand film, Color Out of Space, mais c'est quand même un bon crowd pleaser, puis il y a des belles surprises, des belles surprises visuelles, puis il y a un Nick Cage en forme, là, on va se le dire, là. C'est bon, tout ce que ça prend.
Tout ce que ça prend.
Ça fait penser à une nouvelle, je me rappelle plus si on en a parlé entre nous ou si je l'avais publié sur Facebook, mais il y a le cinéaste indépendant Shane Carruth.
Ouais.
Qui avait fait Primer et Upstream Color,
ouais,
qui
annonçait
que son prochain film va être son dernier. Là.
Exact.
Ouais. Il est un peu tanné du milieu. Puis lui, dans le fond, ça fait des années qu'il est. Il y a comme deux projets là, de longue haleine qui avaient déjà été annoncés, qui travaillaient dessus pendant des années, qui n'ont pas marché. Puis là, apparemment, il y en a un qui est en train de s'en aller en production.
Mm-hmm.
Et il a dit c'est mon dernier, là, genre je suis dans l'industrie. Puis c'est quand même triste parce que je sais pas s'ils vont en avoir de plus en plus, mais tu sais. Oui, d'un côté, les Netflix, les Amazon et compagnie, c'est cool qu'ils produisent des films des fois un peu weird, là, tu sais. Mais j'ai quand même l'impression que de moins en moins de films indépendants, de petits budgets, tu sais, comme des espèces de films à 10 millions, 15 millions, genre de films, je sens que ferait un Richard Stanley. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'espace pour ça à Hollywood. Et puis, à côté, on fait de plus en plus, tu sais, c'est ça, des films. Parce qu'on fait moins de films, mais c'est tout des. Faut que ce soit des films à 300 millions de budget puis qui rapportent un milliard.
Ouais, ça. C'est ça. Ben, tu sais, j'ai le budget sous les yeux, là, de Color Out of Space, c'est un 6 millions, là. Fait que, tu sais, c'est comme un réalisateur culte, mais il revient pas avec les plus grands moyens du monde, là. C'est un budget très, ouais. Très basic, là. C'est un budget de film québécois, là.
C'est ça, puis on pourrait croire que c'est facile, tu sais, relativement pour quelqu'un avec. Quand même, tu sais, son following d'obtenir un 6 millions, puis tu vois, ça y a pris 30 ans, là, comme faire un nouveau film. Donc, c'est ça, c'est tellement dur pour certains cinéastes. J'imagine, soit ils font des compromis, ou s'ils sont pas prêts à faire des compromis, ce qui a l'air d'être le cas de Shane Carruth et de Richard Stanley, ben, c'est. Tu ronges ton frein, puis t'attends ton tour.
Hey, puis je peux-tu faire juste un petit parallèle? Ça n'a pas rapport avec Color Out of Space, mais parlant de cinéastes qui sont censés plus faire de films, là, David Lynch a sorti un court-métrage sur Netflix.
Son affaire de singe?
Mais ça, en fait,
okay, my God!
Ça. Mais ça, je veux juste dire quelque chose, OK? Parce que là, ça, c'est un truc qui me gosse un peu avec Netflix. C'est que c'est un film qui a été tourné en 2016, qui est financé par, je ne me rappelle plus, quelle association française, là, musée...
Ouais,
d'art,
c'est sur l'art contemporain, en fait. C'est une association d'art contemporain, puis c'est écrit au début du film.
C'est ça. Donc, c'est vraiment un film tourné en 2016, qui a joué en 2017 dans comme 2-3 festivals, et que là, finalement, Netflix, donc ça c'est très bien, c'est qu'ils ont payé David Lynch les droits de ce cours-là. Mais tu sais, ce qui me gosse, c'est la date, genre 2020, là, quand tu cherches le film.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un peu comme si c'est eux, ils veulent dire là, hey, nous autres, c'est nous qui avons inventé ce film-là, puis qui l'ont produit, tout ça. Puis ça, ça me gosse un petit peu, ouais, mais sinon, je suis très content que David Lynch ait un nouveau cours. Là.
Hey, c'est vraiment bizarre, là. C'est parce que Lynch, c'est bizarre, là, de base, là, mais c'est... Tu sais, mettons, là, je pense au public moyen, là, qui scroll Netflix, puis qui fait, genre, new release, puis qui voit une tête de singe, puis tu sais, tu vois un singe, tu fais, ah, oh, il doit jouer au hockey ou faire du snowboard, là. Je sais pas. Mais tu sais, il est comme...
Quoi que dans un film de Lynch, ça serait plus.
Hey, mais tu sais, c'est l'esthétique, là, c'est son film qui est le plus proche à Eraserhead, là. C'est Lynch qui parle à un singe qui a comme une bouche un peu comme... Tu sais, dans SpongeBob, ils font ça des fois, là, c'est comme une vraie bouche humaine, mais qui est collée sur comme, genre un cartoon, là. Mais là, t'as comme un vrai singe, mais avec une bouche humaine qui parle. Puis Lynch, il parle, puis c'est des dialogues, genre, complètement absurdes et abstraits. Je suis certain qu'il y a une analyse à faire, puis que Lynch, autant qu'il met du symbolisme, autant qu'il troll, là, dans son dialogue, mais c'est ça, là, c'est un 17 minutes de Lynch qui parle avec un singe. Puis j'ai regardé, j'étais sous influence, j'avais quand même fumé un peu, puis je pense que ça a aidé parce que j'ai vraiment ri fort tout le long, je comprenais rien, puis je riais fort. Fait que merci Lynch pour ce beau moment.
Bon.
Puis pour l'anecdote, ce cours-là, en fait, a été créé pendant l'écriture de la nouvelle saison de Twin Peaks.
Ouais, c'est ça, ça précédait Twin Peaks. Fait que c'est pas la techniquement c'est pas techniquement la dernière affaire que Lynch aurait réalisée d'une certaine façon, tu sais. Puis là, ils le vendent comme la nouvelle affaire de David Lynch, mais effectivement, il y a comme le rapport aux années qui est weird, puis le rapport au temps est weird, tu sais. En tout cas, tant qu'à, dans ma tête, c'est encore Twin Peaks, la dernière affaire que Lynch a réalisée, il a faite.
Ça peut peut-être sonner comme un détail finalement insignifiant, là, puis pourquoi qu'on passe du temps là-dessus, mais je trouve juste que c'est un peu du révisionnisme historique de Netflix. Ils font la même chose des fois quand ils rachètent les droits d'une série, puis là je pense à The Staircase, qui est une série documentaire française à la base. Il me semble que c'est Canal+, mais en tout cas je me rappelle plus exactement de quelle chaîne avait produit ça. Et ça a été comme 4 série au fil des années sur le même cas de cet auteur américain qui aurait peut-être assassiné sa femme ou pas. Et donc la première série tournée en comme 2003, quelque chose comme ça, et lui le documentariste est retourné plusieurs fois justement pour faire des épisodes, et là les deux derniers épisodes ont été financés par Netflix, et là soudainement ils ont comme racheté les droits de toute la série, puis là ils ont fait un peu comme si The Staircase c'est comme un nouveau documentaire intégralement produit par Netflix. Puis tu sais, le branding, puis la façon, tu sais, on dirait que c'est tout le temps à la limite de ce qui est légal, là. Je suis sûr qu'ils ont comme une armée d'avocats, puis ils sont comme, on a-tu le droit de mettre notre logo là, puis de dire Netflix Original, ou je sais pas quoi. Donc, bon, c'est un peu du détail, là, mais je trouve que c'est important quand même de garder un peu, tu sais, des faits, puis... Oui, je suis content que Netflix finance des projets là, des fois, puis donne l'argent à des cinéastes, tu sais, puis pas juste de faire des grosses productions, mais il y a un côté dans le détail là, qui est un peu qui me fait un peu peur en fait de ce qui serait possible de faire. Là.
Ouais, puis tu sais, rachète beaucoup de films étrangers, puis il rebrand Netflix, tu sais, des films qu'on voit en festival qui ont aucun rapport avec Netflix, puis quand ils se retrouvent sur Netflix, il y a Netflix sur la bannière là. Mais hey, j'ai un dernier truc à dire là, avant de closer sur le shirt de Lynch qui s'appelle What Did Jack Do? Je veux juste dire une dernière affaire qui est quand même tripante, mais tu sais, ça a été financé par une association d'artistes françaises. Fait qu'il y a quand même une liberté là-dedans, mais Lynch a fait tellement d'affaires. Là. Je regardais le générique, puis tu sais, il a produit, réalisé, écrit, il l'a monté. Là, les génériques continuaient, c'était design des sets, design sonore, mix son. Tu sais, il a comme tout fait, puis il joue dedans. Tu sais, c'est vraiment juste un film qu'il a fait tout seul, là. C'est quand même malade qu'à son âge, avec la carrière qu'il a, il trippe encore à faire des films en solo, puis à se donner des challenges eux-mêmes, puis à juste faire « fuck off, je fais un film pour moi ».
Mais pas juste du cinéma, hein. Je sais pas à quel point vous êtes familier avec Lynch, mais tu sais, il fait aussi des toiles, il fait des collages,
de la
musique, il fait de la
photo. De la musique.
Ouais, il fait comme plein de trucs, puis tu sais, il y a eu plusieurs documentaires au fil des ans sur Lynch. Il y en a un il y a pas longtemps qui s'appelait David Lynch, The Art Life. C'est quand même vachement intéressant. Puis il y a eu une sortie Criterion. Je suis pas mal sûr qu'il est disponible sur le Criterion Channel pour ceux qui l'ont. Mais là, c'est vraiment plus sur son travail de peintre. Et, on va dans son atelier. Puis, c'est plus que de la peinture. Ça, c'est vraiment un artiste total. Il va un peu sur son instinct. Puis, il va prendre un matériau. Puis, soit il va faire un espèce de meuble avec, ou il va l'intégrer à même sa toile. Ou, donc, c'est vraiment. C'est pas pour rien que c'est comme un des cinéastes les plus adulés de sa génération. Mm. Donc, voilà. Écoutez, c'était notre point de vue cette semaine. On va aller se quitter sur la bande-annonce d'un film qui sort le 14 février pour la Saint-Valentin. Et c'est vraiment dadon. C'est Le portrait de la jeune fille en feu.
God damn, ça sort le 14. Okay, c'est bon. Moi, j'arrêtais pas de dire que ça sortait fin février. Puis je m'étais trompé. Ça sort une semaine avant.
Paraît que c'est bon, ça.
Il paraît que c'est bon.
Ouais, mais ça, là, à voir en salle. Puis ça, d'ailleurs, ça aurait dû. Il n'y a pas eu de nomination, hein, genre aucune.
Ben non, c'était pas la représentation. La France a choisi Les Misérables.
Ouais. Oui, mais il aurait pu avoir, mettons, meilleure photo, pu avoir, tu sais.
Je sais. Ah, les Oscars.
Ça, c'est à voir en salle, là. C'est tellement beau, là.
Meilleure réalisation, donc... man. Meilleure réalisation. Céline Sciamma, réalisation de l'année avec ce film-là. C'est hallucinant, là. Moi, le rythme intra-plan, intra-scène, tu sais, c'est. Tout est tight dans ce film-là. C'est fou. Fait que, ouais, ben, je ne pourrais pas le recommander plus, là. Fait que, oui, un beau trailer de fin pour cet épisode. 203 202 202
203, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mes collègues.
Rémi Colas Cage.
Ouf. I tried something. Je n'ai pas envie de dire mon nom. Vous savez, je suis qui. OK, ciao.
Je suis peintre. L'homme intéressé par ma fille est Milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Il a épuisé déjà un peintre avant moi.
Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Elle vous attend. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Mourir. Courir.
Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
Que savez-vous de mon futur mariage?
Rien.
C'est tout ce que j'en sais aussi. Quand allez-vous vous marier?
Je ne sais pas si je vais me marier.
C'est parce que vous pouvez choisir que vous ne me comprenez pas.
Je vous comprends. Quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres.
Vraiment. Quand vous êtes troublé, vous respirez par la bouche. Combien de temps restez-vous?
Je ne sais pas.
Quel en est le titre?
Portrait de la jeune fille en feu.